Pom 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 pom
pom
pom
Pour bien regarder un tableau, il faut être prêt si on veut regarder la technique, mais pour bien regarder le tableau, pour le plaisir de le regarder pour lui-même, il vaut mieux être loin. Et encore plus quand il s'agit d'une peinture impressionniste pour que les yeux fassent le mélange des couleurs, mais ce n'est pas le cas ici.
Édouard Manet, s'il vous plaît, je ne sais pas qui c'est.
Moi, je suis venu voir ce tableau parce qu'il est tellement connu que...
Déjeuner sur l'herbe.
Je vois des fruits, des gens qui pique-niquent, de l'eau, des messieurs et des dames.
Il rappelle cette phrase de Flaubert en disant que ça s'applique parfaitement à Manet, c'est peindre bien le médiocre.
Ouais.
Et de manière telle que le médiocre n'est pas une influence sur le peindre bien.
Puis c'est tout, hein.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Christophe Charles et Patrick Champagne, Pierre Bourdieu, Manet.
Flight number 2, arriving from New York.
Il n'y a pas une touche de Manet qui ne soit pas intelligente. Pablo Picasso. Ça ouvre bien cet entretien qu'on va avoir, Patrick Champagne et Christophe Charles. Autour du bouquin qui sort, Pierre Bourdieu, Manet, une révolution symbolique. Alors vous êtes tous les deux impliqués dans la publication de ce bouquin, au Seuil, dans la collection Raison d'agir, et c'est, on peut appeler un événement que cette publication, qui part des cours que Pierre Bourdieu a donnés dans les deux dernières années de sa vie, au Collège de France, une dizaine de cours, 9 cours, je crois, sur Manet, mais qui fait suite à un long travail sur la peinture. Et ce qui est intéressant, évidemment, là-dedans, et qui est un peu provoquant, c'est Manet, une révolution symbolique. Alors, dites-moi d'abord, qu'est-ce que vous avez fait sur ce bouquin? Quel travail vous avez fait l'un et l'autre, Christophe Charles?
Alors moi, je me suis plutôt occupé de la deuxième partie, c'est-à-dire le manuscrit inachevé. Donc nous avons, avec Pascal Casanova, édité le manuscrit parce qu'il y avait un certain nombre de problèmes. Et puis nous avons aussi vérifié, disons, certaines données, parce que c'était parfois des notes un peu signalétiques, rapides.
C'est un manuscrit inachevé. Hein.
Voilà, c'est un manuscrit inachevé, donc qui n'a jamais relu, qui n'a pas. Il avait encore des parties qu'il n'avait pas écrites, donc il y avait tout un travail d'édition et de précision. À la différence du cours, là, dont s'est plutôt occupé Patrick Champagne, où là nous avions évidemment un discours continu, puisqu'il était enregistré par le Collège de France, plus, je crois, des notes qui permettaient en plus de compléter le cours.
Sacré boulot, Patrick Champagne.
Oui, c'est un travail énorme. Le problème de la mise par écrit de ces cours, c'est que le fait d'être trop fidèle à la transcription, ça devient parfois presque illisible. Donc il y a un travail de garder à la fois le style oral, mais le rendre lisible pour rendre le texte le plus intelligible possible.
Alors, Manet, on se dit, oui, bon, ben Manet, aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut bien avoir de révolutionnaire que... On connaît tous, enfin beaucoup, les peintures de Manet, le déjeuner sur l'herbe, Olympia. On voit mal le mot révolution à coller à Manet aujourd'hui. Or Bourdieu nous dit mais si, et c'est toute la difficulté qu'il a eue dans ce travail, dit-il, c'est de rebrousser chemin à cette banalisation, le qui va de soi de Manet, pour montrer qu'il y a bel et bien eu dans l'œuvre de Manet, dans la démarche de Manet, dans l'esprit de Manet, vous allez me dire ce que vous pensez de tout ça, une révolution symbolique qui a ouvert l'époque de l'art moderne.
D'abord, il faudra peut-être préciser qu'est-ce que ça veut dire, révolution symbolique.
Oui, ben c'est ce qui m'intéresse, bien sûr.
C'est une révolution dans les catégories de perception. Quand Manet a produit ses tableaux, il a suscité des réactions d'une très très grande violence, de refus, de rejet, qui manifeste le fait qu'il engageait de nouvelles manières de considérer de faire la peinture, non plus comme un moyen pour représenter un certain nombre de scènes qui étaient fortement cataloguées dans ce qui était représentable, c'est-à-dire les puissants, c'est-à-dire les batailles, la religion, il y a tout un catalogue comme ça de sujets obligés. Avec Manet, la peinture n'est plus un moyen au service de ses fins, mais la peinture est au service de la peinture.
Christophe Charles, quand même, Manet était un bourgeois, même un grand bourgeois. Encore une fois, si on voit bien chez Courbet le révolutionnaire, Courbet, le communard, Manet va se mêler un peu à la commune, mais après il prendra des distances avec la violence des communards. Il était républicain, donc opposé au pouvoir de son époque. Enfin, ça, sur le plan politique, est-ce qu'on peut dire qu'il était révolutionnaire ?
Non, c'est plutôt qu'ils choisissent de s'abstraire de l'ordre établi de la peinture. Il ne s'agit pas de dire qu'ils s'abstraient de l'ordre établi, de tout l'ordre établi. Ils s'abstraient de l'ordre établi de la peinture, c'est-à-dire telle qu'elle est définie par la peinture académique de cette époque. Et ça peut être donc une rupture formelle, mais ça peut être aussi une rupture par le sujet. Alors c'est vrai que chez Courbet, il y a les deux. Il y a à la fois la rupture formelle et la rupture par le sujet. Chez Manet, ça peut être tantôt le sujet, tantôt formel. Ça dépend des tableaux. Olympia n'est pas un tableau révolutionnaire en soi par le sujet. C'est une femme nue, c'est un tableau extrêmement classique en termes de thème. Simplement, c'est un certain regard sur la nudité, c'est une autre façon de proposer la nudité qui est complètement en décalage par rapport à ce à quoi les gens étaient habités. Donc c'est en ce sens-là que c'est révolutionnaire.
Manet institue un univers dans lequel plus personne ne peut dire ce qui est peintre et ce que c'est que de peindre comme il faut.
Christophe Charles, qu'est-ce que Manet disait de Manet ? Là, c'est Bourdieu qui parle de Manet. Il aborde par plusieurs côtés, plusieurs angles, plusieurs conditions. Mais qu'est-ce que Manet disait de lui-même, de son travail, de son œuvre ?
Ben, on est un peu désemparés parce qu'on a souvent des témoignages qui sont indirects par ça peut être des écrivains, des journalistes, des amis d'enfance. Hein. Antonin Proust, par exemple, raconte ses souvenirs d'enfance parce qu'il a été au lycée avec Manet, il a connu Manet pendant une longue période de sa vie. Donc, il faut faire attention à ce type de témoignage parce que c'est déjà des gens qui parlent de quelqu'un qui est déjà célèbre. Quand ils en parlent, sinon ils n'en parleraient pas. Donc ils créent parfois une légende où ils accentuent parfois certains traits de caractère. Quand il a fait une exposition personnelle en 1867, il y a un petit catalogue avec un petit texte au début où il explique un peu son projet. Et ce qu'il dit, c'est « je veux qu'on me regarde tel que je suis et non pas tel que les gens voudraient que je sois ». Donc il affirme cette autonomie du peintre. Donc ça, c'est effectivement aussi ce sur quoi insiste beaucoup Bourdieu. Et il y a aussi cette idée de « je sais ce que c'est que la peinture, puisque j'ai appris la peinture comme tout le monde ». Il a passé plusieurs longues années dans l'atelier de Thomas Couture, mais je veux qu'on fasse une peinture qui ne soit plus simplement une peinture d'école qui reproduit les modèles. Donc il affirme son originalité. On a des témoignages de gens qui ont participé à des séances de pose avec lui. Alors là, c'est déjà des choses moins publiques, où il demande aux gens d'être naturels. Bon, alors évidemment, qu'est-ce que c'est qu'être naturel, mais en tout cas, ça veut dire ne pas adopter des poses convenues que l'on souhaite dans l'art académique, essayer de révéler ce qu'on est réellement, au lieu de projeter une espèce d'image de soi officielle ou conventionnelle, etc. Donc, on voit qu'il y a un souci de l'authenticité, de la sincérité. Quand on regarde, évidemment, la suite des tableaux de Manet, il y a des évolutions très sensibles. Donc, c'est quelqu'un qui cherchait, enfin, comme on dit, qui n'était jamais satisfait d'une version. Et on voit bien qu'il y a des périodes dans sa vie, les premières périodes où il se confronte aux tableaux anciens, où il reprend des sujets de tableaux anciens et il les traite à sa manière pour montrer à la fois qu'il sait
Goya,
faire des tableaux.
L'Espagne, etc.
Voilà, oui. Goya, les tableaux espagnols. Mais en même temps, il y apporte sa touche personnelle et il montre que ce sont des tableaux d'aujourd'hui, non pas des reproductions des tableaux anciens. Et puis après, il va inventer ses propres sujets et puis il va de plus en plus s'éloigner de toutes sortes de conventions. Donc on voit bien que c'est un processus de construction progressif de cette révolution et qui va de plus en plus loin parce que, justement, au lieu d'accepter la critique qu'on lui renvoie et les rejets du public, il le défie à chaque fois un peu plus. C'est pour ça aussi que Bourdieu emploie ce terme de révolution symbolique.
Réussi. En quoi est-ce que cette révolution symbolique est réussie, Patrick Champagne ?
Elle est réussie parce qu'elle ne choque plus. Non seulement elle ne choque plus, mais ce qui devient presque choquant, c'est qu'elle est plus choquée
en son temps.
Ce que Bourdieu essaye de faire, c'est de faire une science des œuvres, c'est-à-dire de passer, en gros, d'une analyse de ce qu'il appelle d'une manière plus générale les lecteurs, à une sociologie des auteurs. c'est-à-dire essayer de comprendre comment Manet était amené à peindre, qu'est-ce qu'il y avait dans Manet de culture, d'expérience, de la peinture, etc.
Et il se met pas du côté du spectateur, il se met du côté de Manet.
Il a par exemple un passage amusant dans lequel il dit qu'il y a cette espèce de manière de percevoir les tableaux comme « ça me fait penser à ». Ça me fait penser, alors c'est assez drôle.
Enfin, ça peut donner des choses assez formidables quand c'est Proust qui regarde Vermeer, par exemple.
Oui.
Quand c'est Proust qui interprète Vermeer, qui se projette complètement sur Vermeer, Proust n'essaye pas de se mettre à la place de Vermeer. C'est Proust qui regarde et qui imagine quelque chose à partir de...
Non, mais surtout, ça permet de comprendre mieux Proust que Vermeer, en fait.
C'est ça. Tandis que là, Bourdieu essaye de faire comprendre Manet.
C'est
ça la grande différence, et c'est ça ce très long travail. Il a travaillé combien de temps là-dessus?
Le premier texte où il y a vraiment cette idée de la révolution symbolique, je crois que c'est l'article qu'il a publié dans une revue assez confidentielle, qui sont les cahiers du Musée d'Art Moderne. Donc c'est la fin des années 70, début des années 80. Et dans le premier projet qu'il avait, c'était de traiter en fait Manet, Flaubert et Baudelaire ensemble dans Les règles de l'art. C'est pour ça que le livre s'appelle Les règles de l'art. Et d'ailleurs, il y a des morceaux du manuscrit là, que nous avons édité où il y a des reprises des règles de l'art. Donc on voit bien que c'était deux livres jumeaux, ou en tout cas deux parties du même livre, qui ont été peu à peu dissociées, donc au moment où Les règles de l'art sont publiées, donc en 92. Et après, donc il a repris le projet pour le relancer sur ses bases autonomes, donc à travers le cours fin des années 90. Et puis le manuscrit, je pense qu'il se situe au milieu des années 90. Il a porté ce sujet une vingtaine d'années, pratiquement.
Vous qui l'avez bien connu tous les deux, est-ce qu'il s'identifiait un peu à Manet? Est-ce qu'on peut... C'est la fin de sa vie, l'hérésiarque.
C'est un peu ce que
l'hérésiarque
dit,
Manet.
C'est un peu ce que dit Pascal Casanova dans la postface du livre, bon, tout en prenant évidemment des précautions, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'analogies, cette volonté de révolutionner la sociologie, de changer les catégories de perception du monde social. Mais en même temps, bien sûr, il veut être quand même un savant, il veut être dans l'ordre de la science. Il n'est pas un artiste au sens de quelqu'un qui est dans l'ordre de l'esthétique.
Oui, même donc, si on peut considérer que Bourdieu, c'est une révolution symbolique réussie également.
A réussi, on ne sait pas, parce qu'il y a encore des gens qui le contestent. Donc c'est peut-être un peu tôt.
Ça peut être un peu tôt.
Tandis que Manet, je crois que personne, même dans les gens qui sont conservateurs, personne ne dit que Manet n'est pas un grand peintre. Enfin, je veux dire, je n'ai jamais entendu ça. Tandis qu'il y a encore des gens qui disent que Bourdieu n'est pas le grand sociologue que certains prétendent. Donc c'est encore une révolution en cours.
Ça vient quand même.
Oui, ça vient, mais c'est encore en cours.
Du jour où Manet fait son coup, plus personne ne peut dire qui est peintre.
Pierre Bourdieu, 1988.
Et autrement dit, on passe du nomos à l'anomie, c'est-à-dire à un univers dans lequel tout le monde est légitimé à lutter à propos de légitimité.
Restons toujours sur cette révolution symbolique. Dans quelle condition se produit cette révolution symbolique dans le cas de Manet? Et il y a les conditions historiques. Manet, on l'a déjà évoqué un peu, il est dans son histoire, il est dans son présent, il est lié aussi à l'histoire de la peinture, on vient de le dire aussi. La peinture, ça s'articule d'un peintre à l'autre. On voit bien Manet qui détestait Courbet, donc on se dit qu'il peint par rapport à, très souvent. Donc il est inscrit dans cette histoire-là aussi. Il a sa propre histoire, vous l'avez évoqué, sa condition sociale. Il y a peut-être des affects personnels, des blessures, des ruptures, que sais-je, qui vont l'inspirer, qui vont lui faire faire telle ou telle chose plus qu'une autre, etc. Très souvent, les artistes sont dans une certaine apesanteur sociologique. Hein. C'est des gens qui n'ont pas les nécessités des autres catégories. Ben là aussi, ça a une importance. Les conditions matérielles de Manet, l'influence de son marchand, etc. Il y a encore d'autres raisons, il y a d'autres causes qui vont voir se dérouler cette révolution symbolique. Patrick Champagne.
Disons qu'il va appliquer à Manet ce qu'il a déjà appliqué. Il y avait un article très important qu'il a fait qui s'intitule « L'illusion biographique ». Et lui-même, dans des textes, a essayé de faire la sociologie de Bourdieu. Enfin, et il a fait la même chose pour Manet. C'est-à-dire que, dans une biographie classique, on raconte l'enfance, l'adolescence, le développement de l'individu en question, etc. C'est-à-dire on commence par l'individu dont on fait la biographie. Bourdieu, à la fois pour lui-même et pour Manet, il utilise une autre technique qui consiste d'abord à faire un état du champ dans lequel un individu va arriver. C'est-à-dire quel est l'état de la peinture quand naît Manet. Mmh. Bon, il explique, c'est une peinture, il y a la peinture pompier, c'est une peinture fortement institutionnalisée, une peinture où l'État est omniprésent, etc. Et ensuite, il va s'interroger sur quelles sont les propriétés que devait avoir Manet quand il va rentrer dans cet espace qui est structuré d'une certaine manière pour opérer les bouleversements qu'il va opérer. Donc c'est un peu en deux temps. La première année du cours est fortement consacrée à faire une espèce de bilan d'état de la situation, et notamment d'analyser assez longuement ce que c'est que la peinture pompier. Et la deuxième année, il va progressivement analyser tout le capital social, culturel, économique que possédait Manet, qui avait une culture énorme, pour comprendre comment il a pu contester et réussir sa manière d'imposer une nouvelle peinture, de nouvelles manières de percevoir ce qu'était la peinture.
Quand il arrive, comme vous dites, Patrick Champagne, il n'y a pas que la peinture pompier quand même. Ça, c'est la peinture académique, institutionnelle, le 19e siècle. C'est une vieille histoire, celle de la peinture.
C'est la peinture qu'on voit aujourd'hui dans les musées. C'est une peinture dominante. Il faut quand même faire entrer...
Oui, mais enfin, on a Delacroix, qui est déjà en partie en rupture. On a déjà évoqué Courbet. On pourra parler de l'école de Barbizon. Il y a quand même déjà des peintres. On a inventé le tube de peinture, vous savez. Il y a un moment, on invente le tube de peinture.
Oui, qui permet de peindre à l'extérieur.
Qui permet de peindre à l'extérieur. Donc, les gars sortent, ils vont peindre des arbres, des vaches, etc. Donc, il n'y a pas que la peinture pompier, quoi. Il y a aussi des influences indirectes. Le 19e, c'est la révolution industrielle. Et alors, on connaît ces toiles fameuses, cette toile fameuse de Manet sur le pont avec les vapeurs d'un train qui passe.
Ça, la femme avec la petite. Avec
la gamine, très belle peinture. Oui. Mais voilà, la révolution industrielle a son importance, son influence. Peut-être dans la rapidité de Manet à exécuter, à travailler plus vite, à moins préparer probablement les toiles qu'on le faisait auparavant. Est-ce que Bourdieu évoque cet aspect des choses, l'influence indirecte de la révolution industrielle du temps?
Ce qui est important plus que la révolution industrielle, c'est le sentiment, en tout cas, de la génération de Manet. Il est né en 1832, donc il a 20 ans en 1852. Donc, à la fois le sentiment qu'on est dans une époque de grands bouleversements, alors économiques, comme vous le dites, mais aussi politiques, intellectuels. C'est aussi le moment où commence le socialisme utopique, etc. Donc, il y a toute une effervescence dans tous les domaines. Et son sentiment, c'est qu'on continue de vouloir maintenir une peinture, effectivement, bon, pompier ou académique ou officielle, dans un monde qui est complètement différent. Donc, lui et d'autres, Courbet, Delacroix également, ont un peu ce sentiment-là, qu'il faut une nouvelle peinture parce qu'on est dans un monde nouveau. Donc je crois qu'il y a aussi ce sentiment d'un nouveau moment historique. C'est pour ça aussi qu'il va choisir des sujets qui font polémique, parce que c'est pour bien montrer qu'il est en prise sur cette époque nouvelle. Alors, tous les facteurs que vous avez évoqués, effectivement, jouent un rôle pour donner soit des éléments positifs ou négatifs pour changer la peinture. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que tous les peintres étaient confrontés à ça. Or, tout le monde n'a pas fait ça. Donc, ce qu'il faut à la fois expliquer, c'est ces conditions générales qui font qu'évidemment, on est dans un moment où les gens se posent des questions nouvelles, mais tout le monde ne relève pas les défis. Tout le monde n'accepte pas d'aller jusqu'au bout de ce projet. Donc, il faut articuler, c'est ça le projet de Bourdieu, articuler cet état du champ artistique, politique, intellectuel, et l'habitus, c'est-à-dire les caractéristiques spécifiques de Manet qui permettent d'expliquer pourquoi c'est lui qui a joué ce rôle-là et pourquoi il a été jusqu'au bout de ce projet, alors que d'autres l'ont commencé, les peintres de Barbizon rompent sur certains points, Delacroix rompt sur d'autres, etc. Donc chacun a apporté un peu sa pierre, mais lui est allé complètement jusqu'au bout du projet.
Bourdieu dit à un moment donné, quand on est sociologue, on ne peut pas se contenter d'une formule du genre « Manet est un type extraordinaire qui, dans une situation extraordinaire, a fait des choses extraordinaires ». Bon. Ce à quoi se limite peut-être bien souvent un certain nombre d'analyses.
Donc c'est toute la difficulté de rendre compte de l'exceptionnel tout en le rendant explicable.
Je vois une femme qui se baigne, qui se trempe les pieds dans l'eau. À l'arrière-plan, donc un étang, et puis ça va doucement jusqu'à l'horizon.
Édouard Manet.
Avec des tons extrêmement fondus, extrêmement doux.
Le déjeuner sur l'herbe.
Tous les deux ont déjeuné sur l'herbe, et moi j'en avais fumé un peu. À travers mes paupières entrouvertes, l'air bleu. Ton visage à l'envers sur ton buste, un baiser que tu me donnes à boire, à se croire dans un tableau d'Auguste Renoir. Un chardonneret qui s'y flotte dans l'eau, un bouchon qui flotte, ma plume qui pêche à la ligne, un verre, un signe.
Alors on continue avec le bouquin de Pierre Bourdieu, Manet, une révolution symbolique, qui vient de sortir au Seuil dans la collection Raison d'agir. On est avec Patrick Champagne, qui est sociologue, et Christophe Charles, qui est historien, et qui ont travaillé à la réalisation de ce livre, et qui étaient des familiers, des proches de Pierre Bourdieu. Moi, je voudrais savoir pourquoi ça s'est passé en France, cette histoire-là. Manet, français quand même. Hein. Cette histoire est très française. Pourquoi chez nos voisins
Dans ces cours des années 90, Bourdieu analysait la montée progressive de l'emprise étatique dans le monde social. Avec le livre sur Manet, enfin ses travaux sur Manet, c'est paradoxalement un livre sur le retrait de l'État d'un secteur particulier, mais le retrait de l'État. Et donc, je pense que c'est une des clés aussi pour comprendre pourquoi en France c'est qu'il y avait un rôle de l'État. Mais enfin là, je pense que Christophe Charles a beaucoup plus à dire que moi. Mais il y avait un rôle de l'État extrêmement important auquel finalement on assiste.
En matière de peinture, de culture, de littérature,
de beaux-arts, etc. Depuis la monarchie, en fait, c'est une vieille histoire. L'État intervient beaucoup plus que dans tous les autres pays pour donner des normes, former des écoles avec l'école des beaux-arts, la Villa Médicis, enfin toutes ces institutions.
Est-ce que ça veut dire que Manet illustre ça?
Il se heurte à un monde où l'État est présent. Et donc c'est vrai que c'est pour ça que j'insistais sur la révolution de 48, parce que la révolution symbolique en peinture a été aussi partie liée à la révolution politique, puisque en 48, c'est la première fois où le salon est libre, c'est-à-dire l'État, enfin la République décide qu'il n'y aura plus de jury, que tous les peintres auront le droit d'exposer, donc on a une explosion, 6000 œuvres au lieu de 3000 d'habitude, donc il y a un climat de liberté, donc c'est à la fois lié au fait qu'en France l'État effectivement joue un rôle tout à fait central dans la vie culturelle, et en même temps la France est un pays où il y a des ruptures politiques révolutionnaires tout au long du 19e siècle, et en particulier à la génération de Manet avec 48, donc c'est un élément d'explication, c'est ce côté central de l'État dans la culture, et en même temps le fait que l'État est chahuté à ce moment, et les peintres participent de ce chahut général, qui n'est pas seulement pictural, il est aussi social, il est aussi démocratique, etc. Donc on a une conjonction de facteurs dont on n'a pas l'équivalent, puisque, bien sûr, en Angleterre, il n'y a pas eu de révolution de 48, en Allemagne, il y en a une, mais elle a échoué. Donc il y a une conjonction très politique et en même temps très spéciale, qui font que cette génération de peintres a pu se poser cette question dans des termes tout à fait nouveaux par rapport à ce qui se passait dans d'autres pays ou par rapport même à ce qui se passait à la génération d'avant.
Mais ce qui va faire que la France, et Paris, oui, c'est plutôt Paris qu'on aurait dû dire.
Tout
se passe à Paris. En France, tout se passe à Paris.
Cas, pour la peinture la politique, tout se passe à Paris.
Ce qui va faire qu'après Manet, la scène de la peinture, enfin des beaux-arts, ça va être Paris, quoi, jusque dans les années 60. Il y a une suite à cette histoire.
Oui, parce que justement, cet événement, cette révolution symbolique qui réussit plutôt à Paris qu'ailleurs, va donner des idées aux autres peintres des autres pays, et beaucoup vont venir à Paris pour s'imprégner, en fait, de cette nouvelle atmosphère qui les libère des conventions et des contraintes qu'ils ont encore dans leur pays. Donc il y a aussi ce côté terre promise pour les artistes des autres pays. Donc ça montre bien la centralité à la fois de la scène politique, de la scène artistique et de la France dans l'Europe de cette époque. Et plus que l'Europe d'ailleurs, puisqu'il y a des Américains aussi qui viennent.
Et tout se réfère à Manet. Je parlais de Picasso tout à l'heure en commençant. Il y a une série fameuse de toiles de Picasso dans les années 60.
Oui, il refait le déjeuner sur l'herbe à sa façon.
Il interprète toute une série de déjeuners sur l'herbe. Enfin, il se lance dans une série d'interprétations des déjeuners sur l'herbe.
Je vois un oiseau qui vole. C'est très rare. C'est un instant, comme un photographe. Ce n'est pas un grand pique-nique. Et ce n'est pas à manger, c'est à peindre et pas à manger.
Patrick Champagne, vous étiez un familier de Bourdieu. À quoi ça ressemblait une journée de Bourdieu? J'ai entendu dire par des amis que À 6h du matin, 7h du matin, il appelait les gens pour leur demander des explications ou donner des explications. C'était un bosseur fou, ce Bourdieu.
Oui. On a reproduit d'ailleurs dans le livre deux pages, l'une de ses notes de cours et l'autre des notes préparatoires au manuscrit inachevé. Et je pense que ces pages reproduisent assez bien la complexité de la pensée de Bourdieu, le nombre de choses qu'il essayait de mettre en relation et qui se traduisaient aussi dans son écriture. Enfin, la complexité du monde est telle que, pour en rendre raison, il faut souvent avoir un style extrêmement compliqué. Donc, il avait à la fois une capacité de travail hors du commun. Enfin, là, ce que vous évoquez, je parle tous les détails, mais il avait eu...
Il dormait pas beaucoup.
Alors, il y a un mot sur lequel je voudrais vous interroger, puisque vous êtes en train de parler de langage parfois savant, pour pas dire hermétique, de Bourdieu, c'est dispositionnel, le dispositionnalisme. Voilà un mot qui revient, et plus que ça, dans son travail sur Manet.
Oui, alors ça fait partie du projet qu'il avait en écrivant ce livre, c'est-à-dire comprendre non pas les choses telles qu'on les voit, mais comment elles ont été construites, comment elles ont été conçues avant même qu'elles se projettent sur la toile. Donc, c'est-à-dire reconstituer le processus de genèse d'une touche de peinture, à la limite c'est ça, ou du choix d'un sujet, du choix d'un cadrage, du choix de l'harmonie des couleurs, ou au contraire de la disharmonie des couleurs, le choix de... Enfin, tout ce qui fait qu'un tableau est un tableau, mais le reconstituer dans un processus intellectuel antérieur à sa projection sur la toile. Donc, pour Manet, je pense qu'on peut arriver presque à le faire, parce qu'on a une masse d'informations, d'analyses, d'études, même de chaque tableau à travers les esquisses, etc. Bon, mais c'est donc presque se mettre à la place du peintre, se resituer dans ce qu'il attend, dans ce qu'il voudrait faire, dans ce qu'il n'arrive pas à faire, ou dans ce qui l'empêche de le faire. Donc, il y a aussi l'idée de la censure. Hein. Qu'est-ce qui permet à un peintre de se libérer d'une censure de l'art établi ou de tel sujet qui n'est pas conforme à la morale de l'époque. Enfin, il y a toutes sortes de freins que nous, on ne conçoit plus parce que l'époque s'est beaucoup plus libérée que celle du 19e siècle. Mais dans les sujets de Manet, il y avait aussi ça qui jugeait Olympia, elle fait scandale, pas seulement parce qu'elle est peinte d'une certaine façon, mais aussi parce qu'elle incarne une certaine image de la femme. Et cette femme, les contemporains l'identifient à une prostituée. Donc, comment une prostituée peut-elle être un sujet digne d'être mis en peinture? C'est déjà en soi un défi, puisqu'il y a des sujets convenables et pas convenables au 19e siècle. Donc il y a tous ces éléments qu'il faut reconstituer pour vraiment comprendre à la fois l'audace, parfois aussi la limitation politique majeure.
Il y a des libertés que prend Manet par rapport à la peinture. Si je pense au bar des Folies Bergères, par exemple, avec cette femme magnifique, etc. Mais on voit sur la partie droite du tableau un homme qui est très proche d'elle alors qu'elle est face à nous.
Oui,
donc il y a des jeux avec
des
la perspective, des incongruités oui. avec la perspective. Où est-ce qu'il y a un miroir là? Non, etc. Comme la femme qui est au fond, dans le fond du déjeuner sur l'herbe, qui n'est pas la bonne taille,
les
conventions.
Il y a une rupture avec les conventions académiques.
Quoi. Voilà, et ça il le sait parfaitement parce qu'il sait parfaitement comment.
Parce qu'il les a apprises, donc il les connaît.
Il les a apprises, il sait très bien comment on pose une figure dans un pays. Etc. Donc il dit non, je vais représenter ça comme ça. Donc il y a une volonté dont on ne sait rien. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Manet, dans la main de Manet, dans l'œil de Manet quand il peint cette chose-là? C'est ce que voudrait bien comprendre Bourdieu.
Oui.
Et nous faire comprendre, hein, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Finalement, en vous écoutant, on se dit c'est un miracle, Manet. Parce qu'il n'avait aucune raison de faire ça. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, Manet? C'était un bourgeois, tranquille, dans son époque, avec une belle vie. Il aurait pu vivre, comme Degas ou tous ces gens-là, qui étaient très habiles.
Degas aussi, il fait des
ruptures. Oui, Bourdieu a une phrase dans un de ses cours qui traduit un tout petit peu le fait que c'est assez étonnant, effectivement. Il dit « Il appartient à ces révolutionnaires symboliques, c'est-à-dire ces individus improbables, très étranges, qui retournent la maîtrise qu'ils possèdent d'un système contre ce système lui-même pour le subvertir. »
Alors qu'ils sont dedans
et qu'ils pourraient en bénéficier de manière considérable. Et ils choisissent une voie qui, au contraire, les fait percevoir comme des fous. D'ailleurs, à plusieurs reprises, ils posent la question, c'est comment Manet a fait pour ne pas se suicider dans le monde de contestation de son œuvre qu'il a vécue.
Et alors qu'il n'a pas l'air d'un révolutionnaire. Lui-même, physiquement, si on regarde les photos qu'on a de lui, les portraits qu'il fait de lui-même, et le portrait qu'il fait de son entourage social, son milieu social, c'est des chapeaux wirflés.
Bourdieu non plus n'était pas habillé en révolutionnaire.
Oui, il n'était pas déguisé. Voilà. Peut-être se méfier des révolutionnaires déguisés en révolutionnaires.
Oui, peut-être.
Non, je crois que parce que, justement, il a ses atouts sociaux, c'est-à-dire il n'est pas dépendant de la peinture en tant que moyen de vivre. Donc c'est le fait d'être un bourgeois qui lui donne cette liberté. S'il avait dépendu de sa vente pour vivre, il n'aurait certainement pas continué. Il aurait fait quelques tableaux un peu révolutionnaires, mais il aurait très vite compris qu'il valait mieux faire autre chose.
Il avait dans la tête et dans l'œil une culture de son époque, une culture de la peinture de son époque absolument considérable. Là, on parle de révolutionnaires symboliques, c'est-à-dire de gens qui ont un capital absolument énorme de connaissances à partir duquel se fait...
Et de travail. Oui, c'est ça. Il n'y a pas tout d'un coup un génie qui tombe comme ça. Christophe Charles.
Non, et puis je crois qu'il y a l'idée que, justement, ça, à quoi bon faire de la peinture si c'est pour faire ce que font les autres ? Enfin, il y a quand même aussi certains peintres disent, bon, si c'est pour refaire du Delacroix ou pour refaire du... Bon, à quoi bon ? Donc, il faut trouver sa manière. À partir de la culture que j'ai, à partir de tout ce que je sais de la peinture, il faut que je construise ma propre peinture. Donc, c'est quand même aussi le défi de l'identité, de se trouver sa propre personnalité face à des personnalités quand même très écrasantes comme celle de la génération d'avant, puisqu'il y a David, il y a Delacroix, enfin, il y a des grands. Il y a Courbet, il y a un sentiment d'orgueil. Donc ça, on voit bien, là, ça a partie liée aussi avec cet éthos bourgeois qui est l'individu. C'est pas justement un hasard si c'est un bourgeois. C'est parce que le bourgeois se pense comme un individu singulier. Et là, il faut faire une peinture singulière, différente de toutes les autres.
D'autant plus que le passage par les ateliers, que Bourdieu évoque longuement aussi, produisait des individus qui faisaient la peinture de manière semblable.
Convenu,
oui.
Oui, il faut obéir aux règles, il faut suivre ce que dit le maître, etc.
Il faut, oui, bien sûr, les écoles, les ateliers des beaux-arts, on faisait l'académie, on faisait tout ce qu'il fallait, ensuite il y avait les salons.
Et Bourdieu rappelle que la catégorie artiste n'existait pas encore, elle s'est créée justement au 19e, dans la deuxième moitié, la catégorie artiste telle qu'on l'entend actuellement et qui est à l'origine finalement de la naissance d'un champ artistique, à proprement parler, c'est-à-dire d'un univers qui va se libérer de l'emprise étatique.
Le noir. Les bleus, voilà. Les verts, s'il vous plaît. Plus fort, plus de courage. Les jaunes, les rouges, tous ensemble. Merci, messieurs.
Patrick Champagne, vous disiez, oui, on se demande où Manet trouvait la force de résister à l'ordre établi. En fait, il avait quand même des soutiens. Il avait le soutien de Baudelaire. Il a eu le soutien de Zola, par exemple, ce qui n'est pas mince quand même. Mais...
Oui, sauf qu'à l'époque, Zola n'était pas encore Zola.
Zola n'était pas encore Zola et Manet n'était pas encore Manet.
Et Baudelaire était Baudelaire quand même,
oui,
non
oui, mais ce n'était pas quand même l'écrivain le plus central de l'époque. Donc il est soutenu par justement des gens qui eux-mêmes sont des gens qui veulent se distinguer ou qui sont un peu en marge. Donc c'est logique. Hein, c'est logique que les gens marginaux, ou en tout cas qui sont en rupture, se soutiennent entre eux. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait aussi tenir le temps d'accéder à une reconnaissance plus forte.
Alors Bourdieu fait souvent des rapprochements avec Flaubert, évidemment, et notamment dans la distance entre la description froide d'une scène et puis ce qui se passe, par exemple l'empereur qui se fait fusiller. Bon, les gars, ils ont des beaux costumes, finalement, ils sont tout à fait calmes, même dans les regards qui peuvent s'échanger ou ne pas s'échanger entre les personnages à l'intérieur d'une composition. Il y a une sorte de distance, comme ça, que Bourdieu compare souvent avec Flaubert, avec l'écriture de Flaubert.
Il rappelle cette phrase de Flaubert en disant que ça s'applique parfaitement à Manet, c'est peindre bien le médiocre.
Ouais.
Et de manière telle que le médiocre n'est pas une influence sur le peindre bien.
Puis c'est une génération qui manie l'ironie. Le tableau dont vous parliez de l'exécution de Maximilien, effectivement, ça a l'air d'une peinture très froide et en fait ça traduit un drame. Donc il y a une espèce de discordance.
Et d'autant plus que dans ce tableau, Bourdieu le signale, c'est l'affrontement ultime, puisque dans ce tableau il s'attaque à la représentation historique qui était classique chez les peintres-pompiers. C'est-à-dire il a le sujet même, qui était le sujet par excellence des peintres conventionnels du 19e, et lui, il peint à sa manière ce type de sujet.
Bourdieu s'intéresse aussi beaucoup à la gravure, hein. Ça, c'est moins connu, le Manet graveur.
Oui, parce que c'est là qu'on peut saisir, justement, peut-être le faire. C'est là qu'on peut saisir la façon dont... Parce que la gravure, c'est une simplification du tableau. Enfin, en tout cas, c'est un état parfois préalable ou final du tableau, en tout cas, qu'on remet à sa plus simple expression. Voilà, donc, ça permet d'avoir une étape dans la compréhension du peintre.
Et le Bourdieu était photographe, il a fait beaucoup de photos. Il était bon photographe. Parce que je pense à la gravure, la queue devant la boucherie. Il est très inspiré, là, soudain, devant cette gravure. Et bon, dans le noir et blanc, la photo, le noir et blanc, etc. Je me demande si son expérience de photographe ne lui a pas servi pour regarder tout ça. Comment on passe de trois dimensions à deux dimensions, par exemple. C'est une question qui se pose au photographe. Comment je mets ça en place? Comment les rythmes, la mise en page, en place de ma photo?
Lui-même a pris plus de 2000 ou 3000 photos en Algérie quand il était en Algérie.
C'était pour accompagner l'enquête, en fait. C'était un instrument aussi de connaissance, la photo. C'était pas seulement esthétique.
Mais somme toute, tout ça, c'est encourageant. Hein. Ça montre que la révolution est possible.
Oui.
Vous avez participé, vous avez travaillé sur quelque chose que je trouve vraiment encourageant, je suis sérieux, parce que la révolution n'a pas forcément le visage qu'on lui suppose, elle peut arriver d'une façon inattendue, mais en tous les cas, au moins la révolution symbolique est possible.
Et surtout, elle est nécessaire pour que d'autres révolutions aient lieu, parce que pour que les gens se révoltent contre l'ordre établi, il faut qu'ils perçoivent l'ordre établi comme injuste. Donc ça fait aussi partie de la préparation de la révolution. Si ce qui s'est passé en Égypte ou en Tunisie a eu lieu, c'est parce que le pouvoir en place n'était plus considéré comme légitime, n'était plus considéré comme juste, était considéré comme scandaleux, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que les gens peuvent commencer à se dire « il faut peut-être se révolter ».
Mais est-ce que des révolutionnaires se sont réclamés de Manet, à part en peinture sur le plan social, politique? Non.
Non, mais je crois qu'il y a des moments de convergence. Donc 48, on voit très bien qu'il y a une convergence entre une insatisfaction des peintres par rapport à cet état qui est envahissant et qui oblige à peindre d'une certaine façon ou à respecter un certain nombre d'institutions. En 70-71, on voit bien que la Commune aussi essaye de changer un certain nombre de choses dans ce domaine. Et un des premiers actes de la Troisième République, enfin dans sa phase, disons, de libération, quand elle commence à remettre en cause l'ordre établi, c'est de justement libérer les institutions picturales d'une trop grande emprise de l'État. Donc on voit bien qu'il y a un accompagnement entre les mouvements politiques qui se sont succédés au XIXe siècle et des moments aussi où la culture, que ce soit la peinture ou d'autres arts, contribue à se libérer des traditions, à se libérer de l'emprise de l'ordre établi. Donc en France, il y a une connexion assez claire. Bon, c'est pas vrai partout, mais enfin en France, c'est un accompagnement.
Oui, au temps de Manet, la peinture était un enjeu très important, signification, pas directement politique, mais en tous les cas idéologique, extrêmement importante.
Chaque année, les salons donnaient lieu à une production journalistique absolument énorme, de commentaires sur les tableaux du salon.
Il faut dire qu'il y avait beaucoup moins d'images qu'aujourd'hui.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. On n'est plus dans le même monde d'images. Hein. La peinture était importante, l'imprimerie se développait, les gravures se développaient, etc. Mais enfin, on n'était quand même pas du tout dans le même monde.
On était dans une rareté de l'image, donc toute image avait beaucoup plus de poids qu'aujourd'hui.
Tout à fait, oui.
Merci à vous deux, un livre très encourageant, finalement, somme toute. Manet, une révolution symbolique de Pierre Bourdieu. Je vous remercie Patrick Champagne et Christophe Charles. Merci.
Merci.